Top Music.
Top Racing.
Merci.
Sur Top Music.
Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 14 de Top Racing. Merci.
De rien.
Comment tu vas, Seb?
Bah écoute, moi je vais très bien. Et toi?
Ça va, je suis remis.
Ah.
Enfin.
La semaine dernière, c'était pas foufou. Hein.
Ah, c'était pas foufou. Mais ça va, on va bien. On est content de vous retrouver pour ce nouvel épisode et ce Top Racing. Merci de rien. On va aborder la rencontre de ce week-end, c'est de la Coupe de France. Le Racing qui se déplace en 16e de finale du côté d'Angoulême en Charente. On va en parler avec nos invités tout à l'heure au téléphone. On aura Étienne Desroches qui est un joueur, défenseur à Angoulême. Et puis Kevin Cabioche, journaliste au sport à la Charente Libre. Mais juste avant, on passe au mag dans Top Racing.
Top Racing.
Merci.
Le mag.
Et pour le mag, je te laisse présenter notre invité Seb.
Eh bien, c'est Fabrice Vonnet, alors rédacteur chef d'un hors-série de Zut qui sera consacré au Racing. Salut Fabrice.
Salut.
Alors, journaliste, hein, bien évidemment, de longue date, on va dire ça comme ça, sans donner ton âge. Mais
on peut dire que j'ai une carte de presse à 5 chiffres.
Ah ouais, quand tu vois que moi ça commence par 112 000 quelque chose et que ça fait déjà.
Bah, d'accord. Okay. Bon, alors pour les non-journalistes, voilà.
Ouais, mais c'est pas grave, nous on s'est compris. Oui. Ouais, alors un hors-série, alors est-ce que déjà il y a un nom de code? Est-ce qu'on sait à peu près déjà comment ça va s'appeler? Quand ça va sortir? Déjà en quelques mots rapidement, dis-nous.
Donc il s'agit d'un hors-série de Zut qui fait suite à un premier volume qui avait été réalisé autour de Tommy Ungerer en 2011. Donc c'est un magazine grand format qui sera disponible en kiosque et en librairie en Alsace, qui fera 280 pages environ, qui coûtera 22 euros et qui paraîtra fin février. Donc l'axe choisi par la rédaction de Zut, c'est la passion qui entoure le club du Racing depuis le titre de champion, donc de 79, jusqu'à nos jours. C'est essentiellement axé sur la période actuelle, vu qu'on vit quand même quelque chose aujourd'hui à Strasbourg, dans les tribunes de la Méno, quelque chose que j'avais, moi, personnellement, rarement vu, cet enthousiasme, cet engouement, cette ambiance aussi, et ce consensus autour du club, depuis la remontée, depuis la liquidation, et depuis que Marc Keller est aux affaires.
Donc on est sur les 40 dernières années, on ne va pas plus loin, on ne remonte pas plus loin dans l'histoire du club. Là, c'est l'histoire récente, on va dire ça comme ça, sur les 40 dernières années.
On peut parler d'histoire moderne.
Ouais, et alors qu'est-ce qu'on va... Vous êtes allé voir qui? Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans dans le contenu?
Donc il y a beaucoup de... La parole est vraiment donnée aux supporters, qu'ils soient identifiés comme appartenant aux Ultra Boys, aux UB90, ou alors simplement anonymes, ou peut-être un peu connus du grand public par leur fonction. Donc on a quelques VIP, entre guillemets, qui évoquent leur passion pour le Racing. Je pense notamment à l'escrimeuse Charlotte Lembar, qui sera présente, on l'espère, à Tokyo, au jeu, cet été. Je pense aussi à Christian Prudhomme, qui est le directeur du Tour de France, qui n'est pas alsacien, qui a des origines alsaciennes, mais qui est un fondu du Racing depuis sa plus tendre enfance et qui ne jure que par ce club.
C'est vrai.
Voilà.
Ah ouais.
Donc on a des personnalités comme ça. On a aussi Christophe Ajus, qui est la voix du catch.
Ouais.
Donc,
qui est le cousin d'un très bon ami à moi, qui s'appelle aussi Charlie d'ailleurs. Qui est animateur sur d'autres radios.
C'est un bon là.
Ouais.
Donc à côté de cela, ça c'est pour les personnes qu'on peut identifier, mais dans les supporters, on a bien entendu quelqu'un que les amoureux du Racing connaissent, c'est Grégory Walter.
Bah bien sûr. Ah oui, qui fait tous les déplacements possibles et imaginables avec femme et enfant.
Avec femme et enfant, ouais. Et poussette.
Et poussette, ouais.
Et qui nous raconte justement son périple, donc dans la continuité de ces deux livres, qui nous raconte son périple à Haïfa.
Ah oui.
Avec femmes et enfants et poussettes. Donc, c'était le premier match de Coupe d'Europe depuis 13 ans, je crois.
Ouais.
D'ailleurs, pour la petite histoire, dans son livre, il mentionnait, il faisait part de son interrogation sur le fait qu'il puisse un jour regoûter à l'Europe avec le Racing. Et en fait, ça arrivait plus tôt que prévu.
Oui, mais pour tout le monde, je crois.
Oui.
Il y a aussi pas mal de, je crois, d'anciens joueurs aussi que vous avez réussi à avoir à gauche à droite. Quelques noms, par exemple, comme ça, que vous avez réussi à choper.
Alors, dans les noms, il y en a beaucoup.
Ouais. Oui, sur 280 pages, ouais, j'imagine. Ouais.
En 40 ans, en fait, il y a beaucoup de joueurs. On se rend compte qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué au Racing. Certains ont joué une fois, deux fois, trois fois. Mais dans les anciens joueurs, on a notamment Michael Pagis, on a Rosé Luis Chilavert. On a
vous avez réussi à
au Paraguay par un billet, par une filière.
Un peu sombre. On par a un intermédiaire bulgare. C'est comme pour les transferts, c'est pareil. C'est.
Voilà. Donc on a réussi à contacter. C'est d'ailleurs très intéressant parce qu'il y a un souvenir, assez ému de Strasbourg. Il parle notamment d'une supportrice qui venait aux entraînements en tongs l'hiver, ce qui l'avait profondément marqué. Dans les anciens joueurs, on a aussi Alexander Wenzel pour les gardiens. On a Mamadou Niang, on a David Lady.
Ouais.
On a des joueurs un peu qui ont une carrière un peu plus courte à Strasbourg. Je pense à des jeunes joueurs comme Gaëtan Krebs ou alors Aziz Rabah qui a connu le fameux match de Liverpool en Coupe d'Europe en 96. On a David Titelli, bien sûr.
Bien sûr. J'aime bien le bien sûr. Ah, tout ça, c'est des noms qui résonnent quand même d'une époque aussi, quand même un petit peu. Enfin, peut-être pas dorée ou enchantée, je sais pas, mais c'était quand même une drôle de période, quoi. Les années 90, voilà, il y avait pas mal de choses. Il y a eu des titres, des coupes, des matchs de Coupe d'Europe. C'est vrai que pour toute notre génération, je dirais, ça rappelle quand même pas mal de souvenirs, quoi. Et toi, je pense que tu t'es aussi replongé, toi, Fabrice, dans pas mal de souvenirs en lisant tous ces papiers, en faisant toutes ces interviews. Ça a dû ça fait remonter des trucs, je pense.
Exactement, exactement. Notamment, bon, pour moi qui ai connu essentiellement le Racing avec la montée, le fameux barrage contre Rennes à la Méno. Avant, j'écoutais la radio, j'écoutais les matchs à la radio. Mon père avait dû m'emmener une ou deux fois dans les années 80. Où c'était une période nettement moins glamour de Strasbourg, qu'on évoque aussi avec des entretiens avec Fabrice Meij, avec Marc Andrieux, les frères Cobos aussi, qui remontent à cette décennie-là. Donc bien sûr, ouais, on plonge dans des souvenirs, c'est un peu la Madeleine, il y a un peu de nostalgie, mais ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde, la plupart des joueurs ont joué le jeu et accepté d'ouvrir leur boîte à souvenirs pour évoquer... Leur passage à Strasbourg et généralement c'est de très bons souvenirs pour la plupart.
Est-ce que parmi tous les joueurs que tu as interrogés, il y a un point commun dans leur souvenir au Racing?
Dans leur souvenir, c'est on dirait l'ambiance, la qualité des joueurs pour la plupart. Après, j'ai eu aussi des joueurs qui sont malheureusement qui étaient là à une période un peu sombre. Je pense à Jean-Alain Fanchon.
Il n'a pas connu les plus belles heures du Racing. Hein.
Voilà. Il y a toujours des exceptions. Mais dans l'ensemble, c'est des anciens joueurs qui me disent qu'on avait un effectif de fou. Et des joueurs qui reviennent. Le fait de jouer avec quelqu'un comme Corentin Martins ou Michael Pagis, pour beaucoup disent qu'ils ont progressé à côté de ces joueurs-là.
C'est qu'est-ce que je veux dire? Alors, on va pas faire de mystère ni de cachotterie. Je contribue également à ce hors-série.
Ah voilà, j'ai compris.
Non mais ça paraît. Non mais c'était intéressant d'avoir Fabrice pour en parler, mais pas parce que moi je contribue, mais quoi, à hauteur de quelques papiers, tu vois. Enfin, c'est pas non plus voilà.
J'attends toujours.
T'es payé?
Pas tous. J'ai déjà envoyé des trucs. Non mais ce qui est intéressant, c'est que ouais, moi j'ai eu la chance d'avoir justement David Ledy au téléphone, notamment, et qui parle de cette époque justement un petit peu particulière, qui parle de la reconstruction, qui parle de ses souvenirs. Et c'est vrai que je pense que par le biais de tous ces joueurs, je suis Daniel Luboya aussi au téléphone par exemple, mais sois content parce que tout ça, c'est des contacts qui nous permettront peut-être de les avoir en studio plus tard.
Ah ben, je prends avec plaisir.
Et du coup, c'est vrai qu'on plonge vraiment dans quelque chose, parfois même dans l'intimité, parce que c'est vrai qu'on n'hésite pas trop à les interroger sur qui était le plus fêtard par exemple, s'ils ont des souvenirs particuliers, tu vois, liés à cette époque. Et deux trois fois on m'a dit bon allez, il y a prescription, donc on peut le dire, tu vois, par exemple. Donc ça c'est assez drôle, et je pense que les supporters, t'as vu, je fais un peu de teasing, tu vois, mais j'en dévoile pas trop, mais je pense que ouais, pour les supporters, il y a des choses à picorer quand même là-dedans, assez intéressantes, quoi. Est-ce que toi tu as découvert des choses vraiment pour le coup, parce que bon, tu suis quand même le club depuis un paquet d'années, est-ce qu'il y a des trucs tu t'es dit ah bon, ben alors ça j'ignorais complètement?
Oui, beaucoup de choses. Par exemple, Wilfried Goël qui ressasse encore aujourd'hui une colère après un match contre Nice à domicile. Et Jacky Dhuicq-Perroul ne l'avait pas fait rentrer en jeu. Et de colère, il avait fracassé une porte du vestiaire. Et il profite de l'entretien. Donc, c'est un épisode qui s'est passé, je ne sais pas, dans les années 90. Il profite de cet entretien pour s'excuser encore auprès de Jacky Dhuicq-Perroul dans nos colonnes.
C'est incroyable quand même.
Donc il y a plein de petites choses comme ça. Il y a une histoire autour de Ivan Hašek aussi qui raconte pourquoi Strasbourg. Et en fait, il révèle qu'il était à Strasbourg de passage avec le Sparta Prague et qu'il est en 1985 et qu'il avait fait un petit tour en ville et qu'il avait acheté le maillot et qu'il le trouvait super beau. Et ce qui fait que quand c'était Max Hild à l'époque qui était allé le recruter, il avait donné son choix à Strasbourg, qui était en deuxième division, alors qu'il avait des propositions d'autres clubs européens bien plus huppés.
Juste pour le maillot.
Ça, c'est génial quand même.
Ça, c'est pas mal. Tu l'as fait, ce projet, tu le fais aussi un petit peu avec, on va dire, avec l'aval du Racing aussi. Ça ne s'est pas fait, entre guillemets, dans leur dos. Et ça t'a permis aussi qu'ils t'ouvrent aussi pas mal de portes dans le club là actuellement.
Oui, bien sûr, parce qu'on ne voulait pas occulter non plus le club aujourd'hui, qui représente quand même beaucoup de choses et puis qui est quelque part garant un peu de aujourd'hui de l'histoire du Racing. Il y a ce projet, je sais pas où c'en est exactement, de ce projet de musée qui devrait voir le jour dans la future Méno une fois agrandi. Donc l'équipe actuelle, les dirigeants autour de Marc Heller sont attachés finalement à cette histoire. C'est pas comme dans d'autres clubs en France ou ailleurs où des dirigeants complètement étrangers viennent et pourraient jeter des trophées à la poubelle. Alors je dis ça parce que ça s'est déjà produit à Strasbourg par le passé. On n'a pas voulu adopter la position de... On n'avait aucun intérêt à le faire dans notre coin, donc on a présenté notre projet au club de manière bienveillante, selon la formule à la mode, et ce qui nous a permis en fait d'échanger et puis de mettre en place quelques sujets, quelques rendez-vous, donc notamment des entretiens en face à face avec Marc Heller, avec Thierry Loret, avec Jean-Luc Filzer, des personnalités du club, mais aussi on a réalisé quelque chose d'assez original. C'est un entretien avec Dimitri Liénard réalisé par des enfants.
Ah.
Des enfants de 7, 9, 12 ans, avec leurs questions à eux.
Ouais.
Et Dimitri Liénard s'est vraiment prêté au jeu et ça donne le rendu, ça change. Et puis c'est de tout ce qu'on peut entendre médiatiquement parlant quand c'est la parole des enfants.
Et puis en plus, lui, c'est un bon client. Et ça va, il est sympa Thierry Loret ?
Très sympa.
Mais tu parles de Thierry Loret, justement, c'est intéressant parce que ça veut dire vraiment que c'est un entraîneur qui s'est inscrit dans la durée au Racing. Parce que pour témoigner justement dans un livre comme ça consacré au Racing, je te sens dubitatif, non ?
Non, en fait, l'entretien, ça je l'explique, hein, dans le cas de Thierry Loret, l'entretien a été réalisé à une période où le Racing n'était pas loin de la 20e place.
Ah oui, donc où on parlait un petit peu d'éviction, pourquoi pas, de Thierry Loret.
Alors,
où les supporters, en tout cas, réclamaient.
Ouais, certains, une partie commençait à être dubitative. Et donc, en fait, lui, très vite, il m'a dit « Ah, mais ça sort en février. Ah, mais je ne sais pas si je serai encore là.
» Ah oui, lui-même, d'accord.
Bien sûr, en football, tout va très vite et tout est possible.
Donc, après, c'est vrai que s'il avait en Chine à ce moment-là 3-4 défaites de plus, la question aurait pu se poser, ouais, effectivement. Mais il a redressé la barre, il est toujours là. Donc vas-y, continue.
Complètement. Donc ça donnait le ton en fait à l'entretien. Et en fait, j'ai eu face à moi quelqu'un. On a surtout évoqué son parcours à lui et sa jeunesse et son rapport au football. Donc il était question de ces années quand il était plus jeune, quand il était enfant, dans l'Aube, du côté de Troyes. Et la passion du football, comment c'est venu, ses premiers pas. Enfin, l'idée qu'il soit entraîneur un jour lui est arrivée très jeune, quand il avait 18 ans. Et on a également parlé de son rapport à Strasbourg, parce que Thierry Loret a quand même joué près de 500 matchs en Ligue 1. Mm-hmm. Il a affronté Strasbourg à beaucoup de reprises, sous le maillot de Montpellier, de Saint-Etienne, de Marseille, du PSG, je crois aussi, et de Sochaux. Et en fait, quand je lui demandais quel souvenir il avait de Strasbourg, il m'a délivré une anecdote dont j'ignorais, c'est qu'il avait tenté sa chance au centre de formation, qui était alors dirigé par Arsène Wenger. et il n'avait pas été pris.
D'accord. D'accord.
Après, c'était un bon joueur, mais ça n'a jamais été un top player.
Ah, il a quand même une sélection en équipe de France.
Oui, bah, y en a plein qui ont une sélection.
Bah, c'est un joueur. Non, mais c'est un joueur solide de Ligue 1.
Voilà, c'était un bon joueur, mais c'était pas. Il y a beaucoup de bons entraîneurs, très bons entraîneurs, qui n'ont pas été forcément d'excellents joueurs.
Ah oui, non, mais ça, il y en a même plein.
Ah ben il y en a un bon paquet.
Bah, ça commence avec Giroud, Christophe Pélissier.
Et des grands joueurs qui ne feront pas forcément de bons entraîneurs.
Aussi, bien sûr. Ouais, Thierry Henry.
Oui, mais ça, c'est le début de la carrière, donc on ne va pas le juger sur une expérience ratée à Monaco.
Pas tout de suite. Donc Thierry Loret, tu l'as vu aussi peut-être sous un autre jour que celui qu'il affiche. Bah voilà, les soirs de match avec la tension, on sait que parfois il peut être un peu fraîche, comme on dit en alsacien. est-ce que avec
fraîche ou frère?
Ah, ou frère peut-être. Ouais.
Ouais, plutôt. Ouais.
Et est-ce que du coup tu as eu une autre vision de l'homme tel qu'il est différemment?
Oui, totalement. Enfin, c'était quelqu'un de très très courtois, très correct, une discussion vraiment intéressante où il n'y a pas eu de coup de gueule, par exemple, ou les habituels, enfin les habituels, c'est un peu moins, j'ai l'impression, quoi, mais les fameuses punchlines qui alimentent un peu les réseaux sociaux ou la presse sportive. Donc c'était un entretien, on va dire, paisible, quoi, et très intéressant. Après, on a évoqué cette caractéristique de Thierry Loret qui peut plaire ou agacer parfois lorsqu'il s'agit de s'exprimer après les matchs à chaud. Mmh. Donc il explique, comme n'importe quel entraîneur pourrait peut-être le dire, c'est que il a très peu de temps pour réfléchir à son discours quand on sort du terrain, d'une défaite ou d'un match où il y avait des actions un peu litigieuses, en même temps il faut s'adresser à la fois à la presse, mais aussi pas oublier les supporters, les joueurs, tout un environnement qui fait qu'on doit s'adresser un peu à toutes ces personnes dans un discours d'après-match. Donc voilà, un exercice pas très simple. Alors je pense qu'il pourrait s'en tirer très bien avec la langue de bois. Lui, c'est pas tout à fait son cas, donc forcément des fois ça fait des étincelles.
Et alors au reste du sommaire, donc Thierry Loret, on lira ça avec beaucoup d'attention. et alors au niveau du sommaire, t'as d'autres choses, il y a au niveau des contributeurs par exemple, enfin qui travaille un petit peu sur ce projet, parce que 280 pages, on l'a dit, tu le fais pas tout seul.
Presque, non. Non, c'est pas vrai. Oui, en effet, on a fait appel à un dessinateur de BD, notamment. Enfin, il y a deux dessinateurs de BD qui interviennent. Il y a notamment Timothée Osterman qui dessine dans SoFoot.
Oui, qui a fait une BD sur le foot amateur.
Oui,
donc on m'a offert à mon anniversaire l'année dernière.
De son très expérience bien. À Marmoutier.
Oui,
au FC Marmoutier en D9. Donc un joueur qui se définit comme le Benjamin Cornier de Marmoutier.
Pour quelle raison?
Le numéro 10, c'est son poste.
Ah d'accord, ok. Voilà. Mais il joue.
Il joue.
Ah oui, voilà.
Enfin, il joue peu parce qu'il m'a dit qu'il y avait beaucoup de matchs reportés.
Ah donc c'est comme Benjamin Cornier.
Voilà.
D'accord.
Il a à peu près, c'est vrai qu'à l'arrivée, il a à peu près le même temps de jeu. Mais donc on a Timothée Osterman et on a également Grégoire Carlet, qui est un dessinateur de BD strasbourgeois, qui a sorti récemment un album avec Nino Antico chez Dupuis qui s'appelle Il était deux fois Arthur, autour de la boxe. Un très beau livre. Et là, il nous a fait une BD originale de 8 pages sur son histoire au Racing. Donc c'est assez personnel. En fait, quand il était enfant, sa tata lui offrait des poneys, des licornes, des choses comme ça. Et son papa en a eu assez. Et un jour, il lui a dit « Mon fils, je vais faire de toi un homme. » Et il a décidé de l'emmener au Racing.
Ah.
Et donc, Grégoire raconte, c'est le début de l'histoire, de son histoire avec le Racing. C'est déjà pour un derby contre Metz. Un derby perdu, à la Méno, bien sûr. Et ensuite, il y a plusieurs choses. Donc, il développe un peu son parcours, sa vie. On le voit notamment en Haïti, aller dans un cybercafé pour consulter les scores et s'extasier devant une victoire 4-0 contre Villefranche-Beaujolais. Des choses comme ça. C'est assez incroyable. C'est, au niveau du dessin et du récit, c'est vraiment très, très bien.
Eh ben, du coup, toute cette passion autour du Racing est retrouvée du coup, dans le hors-série de Zut, hein, c'est ça. disponible fin février.
C'est ça, en kiosque et en librairie.
En kiosque, en librairie.
Et sur le shop de Zut, sur Internet, bien sûr.
Eh ben parfait, on en reparlera de toute façon.
On en reparlera pendant
la sortie. Merci beaucoup, Fabrice, d'avoir été notre invité.
Merci à vous.
Fabrice Vonnet, journaliste fan du Racing. On peut être les deux, hein.
On peut être les deux.
Mais tout en restant objectif.
Mais j'étais bien content dans ma carrière de journaliste de ne pas écrire, devoir écrire sur le Racing et de m'y consacrer seulement maintenant.
D'accord, bah parfait. Merci beaucoup Fabrice d'avoir été notre invité dans Top Racing. Merci de rien, on passe à l'actu.
Top Racing.
Merci.
L'actu.
Dans l'actu, on aborde la rencontre de ce week-end et le Racing se déplace en Charente du côté d'Angoulême. C'est la Coupe de France, 16e de finale. Samedi, 18h au stade Chanzy d'Angoulême. C'est le stade de l'équipe de rugby aussi, d'Angoulême, qui évolue en pro des deux. Voilà,
pour
les amateurs de rugby.
Du ballon ovale.
Du ballon ovale. On va en parler avec nos invités. Tout d'abord, on accueille Étienne Desroches. Salut Étienne.
Et salut.
Et tu es défenseur, toi, au Angoulême Charente Football Club.
Oui, c'est ça, exactement.
Et avec toi, il y a Kevin Cabioche. Bonjour Kevin.
Salut.
Journaliste au sport à la Charente Libre, suiveur d'Angoulême depuis pas mal d'années déjà.
Voilà, depuis 6 saisons.
Depuis 6 saisons. Oh. Alors, du coup, tu as vu un petit peu l'évolution d'Angoulême ces dernières années, parce que c'est ça, c'est un club qui est monté, notamment de National 3, ouais. National 2.
Ouais, voilà, ils viennent de monter la saison dernière là, donc ça progresse petit à petit depuis au moins 4 ans avec l'arrivée d'Hervé Loubol, entraîneur, et de saison en saison le niveau augmente, et puis là il y a cette aventure en Coupe de France qui en plus rajoute un peu de piment.
Il y a de la place pour le foot à Angoulême.
Ouais, ça reste une terre de foot, hein, la Charente et Angoulême, même si ces dernières saisons on a plutôt vu le club de rugby du SA15 jouer en Pro D2, donc forcément les gens s'intéressent aussi au haut niveau, mais c'est vraiment une terre de foot et il y a de la place et je pense que le stade va être rempli samedi pour la réception de Strasbourg.
C'est 8000 places apparemment, hein, le stade Chanzy, c'est ça, à peu près?
C'est 6000 en fait, parce que la préfecture a un peu limité pour des raisons de sécurité, donc il n'y aura que 6000.
D'accord.
Mais bien rempli, ça aurait pu faire 8000, ouais.
Étienne, t'as déjà joué devant ce stade plein à Angoulême?
Non, Angoulême, non. On a joué la saison dernière, on a reçu Gioxer, donc un club de Ligue 2 au 7e tour. Et il y avait à peu près 2000 personnes, mais c'était dans notre stade à nous, c'était pas au stade de rugby. Là, pour nous, c'est la première fois qu'on va jouer dans ce stade, donc voilà, on verra bien. Mais c'est un petit stade qui peut accueillir pas mal de monde, donc je pense que pour l'ambiance, ça va être pas mal, je pense.
Quelle a été ta réaction, Étienne, quand tu as appris que tu allais jouer contre Strasbourg, donc une équipe de Ligue 1? Ta réaction est celle de l'équipe en général, hein.
En général, on était très contents parce que voilà, c'est ce qu'on attendait depuis que les Ligue 1 sont rentrés. On voulait jouer absolument une Ligue 1, c'était l'objectif. Donc forcément, on était très contents. Après, c'est vrai que sur le tirage, on aurait pu tirer Marseille.
Ouais, c'est ça, bon. Pas trop déçu de ne pas avoir tiré le PSG, Marseille
Après, on se doute bien que c'est... On voulait jouer une Ligue 1, quoi. Après, voilà, Marseille, Paris, Lyon, Monaco, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Mais bon, voilà, une Ligue 1, en plus, c'est Strasbourg, c'est un club mythique. Donc franchement, non, on est très satisfait.
Qu'est-ce que vous connaissez de cette équipe de Strasbourg? Parce que j'imagine, tu sais, que le samedi soir sur le beIN Sport, quand tu as le choix, tu regardes pas forcément les matchs de Strasbourg, tu vois. Je me mets à votre place. Est-ce que vous la connaissez quand même un peu, cette équipe de Strasbourg?
Oui, on connaît quand même, enfin pour ma part, parce que voilà, je suis quand même pas mal de football, j'aime bien regarder les matchs, etc. Donc je connais pas mal. En plus, début de saison, ils ont fait des barrages pour l'Europa League, donc ils ont été un peu plus mis en avant. Puis l'année dernière, ils ont remporté la Coupe de la Ligue. Donc forcément, on a entendu parler d'eux, on les a vus jouer, donc voilà, on connaît pas mal cette équipe quand même. On connaît les joueurs, donc voilà.
Kevin,
il y a des bons petits joueurs aussi comme Liénard ou Ajor. C'est une équipe qui a plutôt bien marché l'année dernière, même si c'est vrai que cette année, ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué pour vous.
Mais non. Mais justement, Étienne, quel est le joueur du Racing dont vous vous méfiez le plus?
Qu'on se méfie le plus, je ne sais pas s'il y a un joueur en particulier. Après, on sait que voilà, devant Ajor, qui est un très très bon joueur, on sait que voilà, derrière, il y a des très bons joueurs, les trois derrière, Djikou, Mitrovic, Kone, c'est de très bons joueurs, très costauds physiquement. Donc voilà, après on sait que c'est une équipe où il n'y a pas forcément de grosses individualités, mais c'est un très très bon collectif. Donc voilà, on sait que ça va être très compliqué samedi.
Kevin, toi qui suis cette équipe d'Angoulême, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que bah, nous, forcément, c'est plus compliqué de voir des matchs de National 2, je ne te cache pas. Ouais. Vu un petit peu bah, de l'extérieur, bon, même si je pense que tu restes un petit peu supporter de cette équipe, à force, on s'attache, on sait comment c'est.
Ouais,
mais c'est quoi les forces de cette équipe d'Angoulême que le Racing va affronter?
Ben, je trouve qu'ils ont une bonne défense. À mon avis, ils vont jouer à 5. Alors, des fois, ils jouent à 4 derrière, des fois à 5. Ils ont 3 défenseurs centraux qui sont vraiment très costauds. Dans les duels et tout, donc je pense que ça peut résister à une équipe comme Strasbourg, ça peut résister quoi. Après au milieu de terrain, ils ont un numéro 10 qui s'appelle Lucas Franco, qui quand il est dans un bon jour est un super joueur aussi. Donc je pense qu'ils ont moyen de faire quelque chose, même si bien sûr ça va être difficile.
Est-ce qu'il y a dans la ville, j'ai envie de dire, il y a un engouement justement nouveau peut-être, là tu me disais la montée en puissance avec la montée en National 2, mais est-ce que ce 16e de finale contre une Ligue 1, contre Strasbourg, bah ça remet un coup de projecteur? Est-ce qu'il y a une ambiance, est-ce qu'il y a quelque chose autour de ce match qui se passe à Angoulême?
Ouais, on le sent vraiment monter à la Charente Libre. On a beaucoup d'appels de gens qui demandent comment on peut avoir des billets, etc. Au club aussi, je sais qu'ils sont beaucoup sollicités. Donc il y aura sûrement 6000 spectateurs, hein, vu l'engouement qu'il y a, je pense que le stade va être rempli, donc ça va être une ambiance sympa. En plus on attend aussi des Strasbourgeois, donc ça va donner un peu de piment pour que les Angoumoisins donnent de la voix, même s'ils ne seront pas organisés comme des vrais supporters, quoi.
Il y a un petit clin d'œil d'ailleurs marrant, hasard du calendrier, la gare de Strasbourg, la Grande Verrière, a été mise aux couleurs du festival de BD d'Angoulême la semaine dernière, donc c'est vraiment un hasard du coup de calendrier, mais du coup c'est un petit clin d'œil qui est plutôt sympa, quoi. C'est voilà, comme quoi bon, ça restera très très amical, je pense, hein, entre Angoumoisins et Strasbourgeois.
Tu sais comment on appelle les habitants d'Angoulême?
Bah, je crois, je me suis pas trompé, les gars.
Ouais, non, c'est ça.
Ah bah bravo. Bon alors du coup, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui attend le Racing samedi? Donc une ambiance sympa, une équipe défensive, Angoulême, et un match difficile.
Bah, je pense que ça va être, ouais, l'ambiance va être sympa parce que c'est vraiment un petit stade un peu à l'anglaise qui a été refait l'été dernier pour le rugby. Donc il y a 3 tribunes, il y a des supporters qui sont aussi tout le long de la main courante.
Ouais.
La préfecture a eu la bonne idée de ne pas mettre des grillages, ce qui était envisagé, donc finalement il n'y en aura pas, donc ça va être quand même plus sympa. Et puis après, bon, au niveau du terrain, je pense que bon, même c'est plutôt une équipe qui joue au ballon quand même, même si ça risque d'être assez défensif. Je pense pas qu'ils vont balancer des longs ballons sur les attaquants, hein, ça va. Ils vont quand même essayer de jouer.
Par contre, il faudra juste faire gaffe, les gars. D'habitude, c'est le terrain de rugby, donc au-dessus de la barre transversale, ce sera pas 3 points.
Non, ouais.
Petite précision comme ça, à tout hasard. Hein, je veux dire, voilà, peut-être pas forcément habitué. Tu sais,
terrain de rugby, ça va être un champ de patates, le truc, non?
Ouais.
Ouais, ça, il y a des chances, parce qu'ils ont joué jeudi dernier contre Perpignan et ils ont un peu salopé le terrain.
Il y a encore, Thierry Loret qui va dire « Ouais, le terrain était pourri, on avait un ballon de plage.
» Ouais, c'est quoi les ballons, Étienne, utilisés pour la Coupe de France? Là, vous avez fait exprès de prendre des... Non, vous n'avez pas le choix. Tiens, d'ailleurs... Ouais, par contre, c'est une vraie question. Par contre, vous avez reçu les ballons aussi au niveau de l'entraînement à Angoulême? Parce que c'est pas les mêmes ballons, je crois, en Coupe de France.
Nous, c'est les mêmes ballons que nous, on a en championnat, en fait.
D'accord.
Nous, nos ballons, c'est les Fédé qui la donnent pour le championnat. Et c'est exactement les mêmes ballons pour la Coupe de France. Donc, nous, personnellement, ça ne nous change pas grand-chose. On joue avec les mêmes ballons, quoi.
Ah bah, c'est comme... Ouais, vous partez déjà avec un avantage. Terrain dégueulasse, ouais. Ballon de plage auquel vous êtes habitué. Merde, on est mal barré, quand même. En plus, ils ont 3 costauds derrière.
Non, c'est pas les mêmes ballons que la Coupe de la Ligue. Donc franchement, dans ceux-là qui avec en Coupe de France et nous en championnat, c'est des bons ballons.
Ouais, j'avais juste encore une question sur le tirage, parce qu'on parlait un petit peu tout à l'heure de la déception, pourquoi pas, d'avoir tiré Strasbourg plutôt que le PSG. Est-ce que quand on est une équipe comme Angoulême de National 2, est-ce qu'on préfère pas avoir un tirage facile, entre guillemets? Je parle pas de Strasbourg, hein, mais tirer une équipe de son niveau, voire inférieur.
Privilégier.
Pour aller le plus loin possible. Ou alors direct se taper une équipe de Ligue 1.
Honnête.
Qu'est-ce qu'on préfère quand on est joueur de National 2?
Ben en fait, on va dire que voilà, jusqu'au 7e, 8e tour, voilà, si on peut prendre des équipes inférieures, comme on dit, un peu inférieures ou de notre niveau pour avoir un peu plus de chance, je pense que c'est mieux. Mais je pense qu'arriver à un certain niveau, la Coupe de France est faite pour rencontrer des équipes supérieures et des équipes de l'élite. Parce que admettons que voilà, on aurait reçu une équipe de N3 en 16e de finale et voilà, ben on passe à la trappe.
Ouais, là c'est ballot là.
C'est beaucoup plus frustrant que de jouer voilà une affiche comme Strasbourg et d'être éliminé parce que voilà ça serait quasi normal quoi de sortir par Strasbourg mais d'être sorti par une équipe de notre niveau inférieur, ça fait plus tâche quoi.
Bon, en tout cas, t'inquiète
le
pas.
Le point positif d'être tombé sur Strasbourg, c'est que le match peut se jouer à Angoulême aussi, alors que si ça avait été Marseille. Il aurait fallu délocaliser à Limoges ou à Poitiers, donc c'était un peu dommage. Quoi.
Bon, vous inquiétez pas, en tout cas, Strasbourg laissera la recette.
Ah, c'est exactement ce que j'allais dire.
On n'est pas l'Olympique de Marseille, nous, donc ça va, on n'est pas des rapaces. Hein. On laissera la recette. Enfin, en tout cas, dans la tradition, j'ai jamais entendu Strasbourg qui n'a pas laissé la recette à l'équipe.
Et puis Marc Keller, je pense qu'il donnera les consignes en ce sens.
C'est un grand prince, je pense. Effectivement. Oui. Bon, parfait, je crois qu'on a fait le tour de ce 16e de finale pour le Racing. On va terminer quand même par un petit pronostic, parce que voilà, même si c'est la coupe.
La tradition.
C'est la tradition. Bon, alors, Étienne, en tant que joueur d'Angoulême, tu vas me dire un pronostic. comment tu vois ce match?
Et franchement, j'aimerais une victoire, une qualification au pénalty pour nous.
Ouais. Au pénalty, pour faire durer le plaisir.
Ça une bonne ambiance jusqu'à la fin, un peu c'est un match serré, et puis voilà, on se qualifie au pénalty.
Ok. Kevin, qu'est-ce que tu penses de ce match? Qu'est-ce que tu attends? Enfin, qu'est-ce que tu vois?
Un vrai pronostic, je dirais 2-1 pour Strasbourg après prolongation.
Ah ouais. Mais
j'espère qu'Angoulême va gagner quand même.
Bah oui. Moi je pense qu'on va je pense que Strasbourg va gagner, va se qualifier, mais je pense que ce sera pas si simple parce que c'est des équipes qui c'est un peu le match de la saison aussi quoi pour Angoulême quelque part, tu vois, ils l'ont dit, il y aura du public, il y aura c'est une équipe qui a l'air d'être solide d'après ce qu'on en entend dire. Donc 1-0 pour Racing. Ouais, 1-0.
Petit bras là.
Mais tu sais, parfois ça suffit, pour aller en 8e, ensuite en quart, en demi, en finale et battre le PSG en finale.
Bien sûr.
Il faut parfois passer par des matchs un petit peu difficiles comme ça. Mais voilà.
Ouais, moi je vais dire quand même 2-0. Ça reste un score largement acceptable pour le Racing et pour Angoulême aussi.
Et j'ajoute juste un truc.
Ouais.
C'est que, en tout cas, bravo les gars, vous avez un super beau maillot.
Alors oui,
on a découvert ça.
On s'est fait la réflexion sur le maillot d'Angoulême. Franchement, il est très propre ce maillot.
Ah bah merci, c'est gentil.
franchement,
en plus, il change tous les ans et c'est vrai que tous les ans il est vraiment pas mal.
Ça doit être agréable à porter aussi d'avoir un beau maillot comme ça qui ferait envie à beaucoup d'équipes de Ligue 1.
Tout à fait. Ouais.
Je pense aux Amiénois par exemple.
Par exemple.
sans les citer. Bon, merci beaucoup messieurs d'avoir été nos invités. Merci Étienne Desroches, défenseur à Angoulême. Merci beaucoup à toi.
Merci à vous.
Et merci. Kevin Cabioche, journaliste à la Charente Libre. Merci Kevin.
Merci et bon match samedi.
Samedi, on va suivre donc ce 16e de finale de la Coupe de France au Stade Chanzy d'Angoulême. Merci beaucoup Seb.
Merci à toi Charlie.
Merci d'avoir été présent pour cet épisode 14 de Top Racing. Merci
de rien.
Et on se dit à la semaine prochaine. Salut.
Top Racing.
Merci.
Sur Top Musique.